Être un honnête homme, le terme fait gentiment désuet. Et pourtant, c'est toute l'ambition de Jean-Luc Martin Lagardette. Il fait même profession de la partager.
Vous avez une position dans votre métier qu'on pourrait qualifier comment ?
Original.
Qui êtes-vous ?
Journaliste, essentiellement, dans mon activité professionnelle et également militante, puisque la raison pour laquelle vous venez m'interviewer, c'est que je suis créateur et animateur du site internet ouverture avec un S.net, qui est le portail de l'honnête homme du 21e siècle, qui est donc mon activité journalistique et qui est accompagnée d'une démarche militante, puisque je suis co-créateur, co-fondateur de l'APCP, l'association de préfiguration d'un conseil de presse en France. Disons que c'est une instance de régulation qui m'a semblé nécessaire à créer pour permettre de traiter en partie les dérives des médias.
Vous n'êtes pas jeune journaliste, quel est un petit peu votre parcours ?
École supérieure de journaliste de Lille, ensuite reporter local à La Voix du Nord, 3 missions en tant que responsable de bulletin municipal, donc dans des collectivités locales. Ensuite, journaliste à la Gazette des communes, qui était un hebdomadaire en direction des professionnels des collectivités locales. Créateur ensuite de Mairie Verte, une lettre d'information. C'était dans les débuts des années 90, à l'époque de Rio, du début du développement durable, à destination des collectivités locales pour les inciter et leur donner les moyens intellectuels et pratiques d'investir et de s'intéresser au développement durable. Ensuite, rédacteur en chef de Décision Environnement, un magazine pour, pareil, inciter les industriels, les entreprises, mais aussi les collectivités, à se mettre au développement durable. Et puis ensuite, j'ai été longtemps journaliste indépendant dans le domaine du développement durable. J'ai été aussi formateur. Je suis auteur aussi d'un guide de l'écriture journalistique qui en est à sa 7e édition, donc qui est maintenant référencé. Je suis depuis un an et demi rédacteur en chef d'un site internet que j'ai créé et qui s'appelle Ouverture.
Cette distance critique que vous cultivez ou que vous avez naturellement, elle est née quand ? Comment est-ce qu'elle a germé ?
Je précise d'abord que je fais une différence entre critiquer et critiquer. L'esprit critique et l'esprit de critique. La grande différence que je fais, c'est que l'esprit critique, l'honnête homme, c'est ce qui caractérise pour moi l'honnête homme, c'est celui qui, en premier lieu, se critique lui-même. Donc, qui se surveille, qui se connaît, qui connaît ses préjugés, ses peurs, ses angoisses, ses désirs, et qui se surveille en permanence. Donc ça, c'est l'esprit critique. Et l'esprit de critique, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à 99%. C'est des gens qui aiment montrer ce qui ne va pas chez les autres.
On est un petit peu, semble-t-il, dans la société du pathos. Rien ne va, c'est pas si juste que ça peut-être.
C'est même fondamentalement faux, puisque l'humanité existe toujours alors qu'elle aurait déjà pu ne plus exister, puisque nous avons depuis plusieurs décennies les moyens de faire sauter la planète. Donc si nous continuons, c'est bien qu'il y a quand même des forces positives qui sont à l'œuvre, et c'est intéressant en termes de journaliste de les déceler également. Donc la critique, c'est aussi pour donner des informations qui ne paraissent pas ou qui sont mal exploitées dans la grande presse, dans les grands médias, qui, eux, s'attachent, comme vous dites, au pathos, à l'émotion, à la petite phrase, au people, à tout ce qui est le clinquant et le superficiel du monde, et qui masquent les lignes profondes qui sont à l'œuvre dans l'évolution de l'humanité.
Un honnête homme, c'était un personnage du XVIIe siècle qui avait succédé donc aux courtisans.
La succession a conduit notamment à ce qu'on appelle les Lumières, c'est-à-dire que l'honnête homme, c'est celui qui est curieux d'abord. Et la curiosité va de pair avec l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est encore une fois la capacité à se remettre en question soi-même, puisque l'ouverture d'esprit, c'est accepter de considérer, d'écouter donc des positions, des affirmations, des propositions qui vont à l'inverse de ce que je peux croire profondément. Habituellement, quand on a une position comme ça qui titille nos conceptions, on a du mal non seulement à les écouter, mais même à les admettre dans la société. Il y a beaucoup d'exclusions qui sont fondées sur ce principe-là, de refuser la parole ou même l'existence de personnes qui portent une parole différente. Or, mon souci est précisément de penser que dans toute expression humaine, il y a toujours quelque chose à retirer, quelque chose à étudier, et que donc l'exclusion pure et simple est contraire à l'humanité, est contraire à l'humanisme, et donc l'honnête homme, c'est celui qui va s'efforcer de travailler sur lui pour accepter de rechercher dans ce qui lui est dit ce qu'il peut tirer de bon pour l'intérêt de tous.
Cette ouverture, plutôt ces ouvertures, on les retrouve sur Internet, c'est l'outil pratique après tout pour que tout le monde y accède.
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à exister puisque je ne pouvais plus exercer dans le cadre traditionnel, étant donné que la plupart des médias sont soumis à des exigences aussi bien politiques, économiques que j'estime insupportable pour la qualité de l'information que je souhaite diffuser. Donc j'ai la très grande chance d'avoir pu ouvrir, d'abord sur Internet, qui est bien sûr un média merveilleux et qui est extrêmement sous-exploité, mal exploité par mes confrères, je le regrette, parce qu'il y aurait un moyen de s'appuyer sur justement les citoyens en leur donnant peut-être une petite formation pour que ça ne soit pas le journalisme citoyen qu'on voit trop se répandre, qui n'est en fait que du journalisme de critique, de commentaires. Mais utiliser Internet pour une construction collective de l'information, c'est une expérience que j'ai tentée plusieurs fois sur le site AgoraVox, qui est le premier site citoyen en France, et qui commence à faire un petit peu des émules à droite et à gauche, et qui permet de construire un journalisme plus collectif, avec une exigence de qualité, de rigueur, de recoupement, de vérification, de complémentarité, que le journaliste peut apporter par son professionnalisme.
Qu'est-ce qu'on retrouve sur Ouverture ?
Sur Ouverture, vous trouverez différents thèmes qui sont un petit peu les dadas d'ouverture. Bien sûr, en premier lieu, le développement durable, l'écologie, la gestion douce et tout ce qui touche ces aspects d'environnement. En rappelant que le développement durable, c'est l'environnement, le social, donc la lutte contre la pauvreté, la justice, l'équité sociale, et puis l'économie, c'est-à-dire aussi une activité qui puisse être pérenne. Donc c'est une analyse et une information, toujours une information, c'est-à-dire que tous les articles d'ouverture sont liés à une actualité et un complément, un angle, un point de vue qui est rarement développé, comme on trouve par exemple dans le domaine de la santé, qui est un autre point très important d'ouverture, puisque dans le domaine de la santé, il y a aussi énormément d'intérêts économiques qui empêche une diversité des modes thérapeutiques, notamment en France, de s'exercer, de se mettre en place. Il y a en France un certain scientisme qui prétend éradiquer ou combattre toute autre forme, toute autre approche du traitement de l'homme d'une façon globale, qui serait non académique.
Est-ce qu'il y a un sujet en particulier auquel on ne comprend rien, ou bien un domaine que l'on n'explique pas bien ?
Précisément, la relation entre les nouvelles thérapies et les sectes, par exemple. C'est un domaine qui est pris n'importe comment, où il y a beaucoup de choses qui sont de la désinformation, que je trouve très dommageable pour l'intérêt collectif.
Les démarches telles que les vôtres ont une efficacité?
C'est difficile à mesurer puisque d'abord nous sommes très neufs. Un an et demi d'existence, nous avons quand même quelques indicateurs qui nous permettent de voir que nous commençons à avoir un impact. Premier indicateur, quand on consulte les statistiques et les origines des clics sur notre site, nous trouvons les grands titres de presse, les grands titres nationaux, les grands hebdomadaires, certaines administrations. Donc je sais que mon journal est lu. Il n'y a pas forcément de répercussions, de réponses immédiates, mais il est consulté. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons un accroissement des consultations, puisque aujourd'hui, nous en sommes à environ 400 clics par jour et avec 6000 abonnés gratuits, mais quand même 6000 abonnés qui reçoivent régulièrement la lettre trimestrielle qui est publiée à partir des articles parus sur notre site. Le troisième point est le fait que parmi nos destinataires de la lettre, il y a un bon tiers de professionnels de l'information, donc des fichiers de journalistes, qu'ils soient environnement, développement durable, santé ou autre.
Les acteurs politiques, ceux qui font quand même aujourd'hui, comment est-ce que vous les voyez ?
Je les vois de plus en plus soumis à la nécessité de répondre, comme vous disiez, au pathos, c'est-à-dire qu'on prend des décisions pour calmer les émotions. Rien qu'en quelques années, avec ce dernier gouvernement, nous avons eu plusieurs lois sur la sécurité. Les préoccupations des Français sont aussi sur cet aspect-là, mais non seulement ces lois n'ont rien réglé, mais en plus, elles instaurent une sorte de pratique de la politique qui est de « Ah, un problème, ah, on fait une loi ». On est très content, on a réussi à faire passer la loi, plus ou moins grande majorité, parfois même à l'unanimité, donc on est très heureux, mais ça règle absolument rien.
Vous, pour faire avancer les choses, qu'est-ce que vous faites ?
Le travail que je fais, notamment pour instaurer un conseil de presse en France, c'est-à-dire une régulation du travail des journalistes, est mal vu par les journalistes, donc les journalistes n'en parlent pas. Ils s'opposent en général, en grande majorité, à ma démarche, même si j'ai des soutiens importants comme la Fédération des agences de presse ou des écoles comme l'École supérieure de journalisme de Lille, puis d'autres comme le CLEMI, comme d'autres organismes qui soutiennent cette initiative. En France, le journaliste refuse d'être être mis en question publiquement sur son travail sous prétexte de préserver sa liberté d'expression. Je crois que c'est une profonde erreur qui va à l'encontre de la crédibilité que nous pourrions avoir auprès de nos lecteurs si nous acceptions plutôt d'être mis en question, parce que de toute façon, nos lecteurs et les Français financent la presse, il faut le savoir, à hauteur d'1,5 milliard d'euros par an. Donc ce sont nos impôts, vos impôts, qui payent 15% à peu près du chiffre d'affaires de la presse généraliste d'opinion. Donc il y a un devoir de rendre des comptes qui ne me semble pas respecté aujourd'hui et qui me semble dommageable et pour la profession et pour la qualité du débat public.